soir avec des confrères journalistes. Nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Deux grands thèmes au menu de notre débat de ce soir, à savoir affaire fosse commune de Maluku. Le procureur général de la République se saisit du dossier. L'UNAFEC de Kyungwa Kumwanza, parti politique de la majorité présidentielle, a décidé de présenter un candidat à la présidentielle de 2016. C'est notre deuxième thème de ce soir. Participe à cette émission pour le débat Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTG ainsi de la média privé qui émet depuis Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous.
Joël Kadidanga, éditeur du journal Impact News, un journal qui parie ici à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadidanga.
Bonsoir chers soeurs et consoeurs, heureux de vous retrouver et de retrouver les auditeurs.
Merci. Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télé Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans la province du Bas-Congo. Chamboui, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir chers auditeurs de Radio Kati.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokati.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé ces deux sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Bonsoir. Les manchettes des journaux parus cette semaine à Kinshasa se sont penchées sur notamment le charnier des Maluku ainsi que les congrès de l'UNAFEC à Lubumbashi. Forum des As signe affaire fosse commune mène des fustiges et l'instrumentalisation. C'est ainsi que le quotidien du groupe L'Avenir rapporte qu'au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Lambert Mende précise pas de lien entre la fosse commune et les événements des 19 au 21 janvier 2015. Parlant des enterrements collectifs des indigents intervenus à Maluku, explique les confrères. Le porte-parole du gouvernement estime qu'il n'y a rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements des 19 au 21 janvier 2015. Et ce, renchérit-il, parce que le bilan de ces événements est de 27 morts, même si les sources les plus mal intentionnées n'ont pas dénombré 421 morts en janvier dernier. Pour sa part, les tabloïds de la prospérité titre « Affaire fosse commune des Maluku » Mende donne des précisions. Comme on pouvait s'y attendre, écrit la consoeur, le ministre des médias et porte-parole du gouvernement a confirmé la version du gouvernement provincial de Kinshasa. Il s'agit d'une opération routinière qui s'effectue régulièrement pour désengorger la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, dont la capacité ne dépasse pas 400 places. Forum des As se rappelle que Bruxelles mobilise 1 500 000 euros pour enquêter sur le charnier des Maluku. C'est ainsi que le journal Le Phare titre « Fosse commune des Maluku, la MONUSCO promet des moyens techniques ». Et le potentiel de titrer « Fosse commune des Maluku, la Belgique et la MONUSCO offrent leurs bons offices dans l'enquête ». En même temps, le Phare signale que le ministre belge Didier Reinders demande de sécuriser le site. Sous un autre chapitre, Radio Capiponet rapporte que l'UNAFEC a décidé d'avoir des candidats aux provinciales, aux sénatoriales, aux législatives ainsi qu'à la présidentielle. Déclaration faite lundi 6 avril dernier par Gabriel Kyungwa Kumwanza, le président de ses partis politiques membres de la majorité présidentielle. Le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a fait cette déclaration au lendemain de la clôture du congrès de son parti tenu à Lubumbashi.
Merci Guy Maté pour cette revue de presse. Autre sujet qui en fait l'actualité cette semaine, c'est l'investiture des membres de la Commission nationale de droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment samedi 4 avril à Kinshasa. Cette Cour a la compétence de juger le président de la République, le Premier ministre. Elle est aussi juge de la constitutionnalité de loi ainsi que des contentieux électoraux. Joël Kadidanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Comment analysez-vous l'installation de cette juridiction?
Bon, je crois que ça permet, bien que venu en retard, parce que ça devait nous venir depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça vient combler certaines lacunes de notre justice en ce qui concerne le traitement des dossiers liés à l'inconstitutionnalité de certains textes, et ainsi de suite, parce que le tout était compilé au niveau de la Cour suprême de justice. Espérons qu'avec l'installation de cette juridiction, les choses pourront avancer, pourront évoluer dans ce sens-là.
Jean-Pierre KMB, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA en sigle, un média privé qui émet depuis Kinshasa, certaines personnes doutent par rapport à l'indépendance de cette cour constitutionnelle parce qu'ils estiment que les membres ont été nommés ou choisis par les chefs de l'État.
Alors, ceux-là voudraient qu'ils viennent d'où? Du ciel ou de je ne sais où? D'abord, je crois que par rapport à la mise en place de cette cour constitutionnelle, il a fallu attendre au moins 50 ans. 50 ans parce que ce projet de la cour constitutionnelle ne date pas d'aujourd'hui. On se souviendra que déjà en 1960, on en parlait, mais ça n'a jamais été le cas. Et donc, il fallait attendre l'avènement de Joseph Kabila à la tête de ces pays pour voir enfin cette promesse qui était encore jusque-là un rêve devenir réalité. Mais bon, quant à l'indépendance, je crois que on a toujours tendance à faire un procès d'intention. Ça et là, on a vu les magistrats de la Cour suprême de justice toujours victimes des intentions, procès d'intention et consorts. Mais je crois que les membres de cette haute cour de la République, des éminents professeurs que je connais personnellement, des gens intègres, ils seront à la hauteur de leur tâche et indépendants. Et cette cour, en quelque sorte, vient encore concrétiser ou si vous voulez, rendre réel, ajouter encore un plus dans notre appareil judiciaire. Quant à ce qui est de ces procès d'intention, je crois que ceux-là se trompent un peu d'adresse.
Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télé Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans la province du Bas-Congo. Il était temps d'avoir cette cour finalement en RDC.
Oui, il était temps. Vous savez très bien, c'est comme Jean-Pierre Kayembe l'a dit, c'est depuis 1960 que c'était prévu qu'il devait y avoir la cour constitutionnelle. Les temps, les jours se sont écoulés, il n'y en a pas eu, propre à notre façon de faire les choses des Congolais. Mais aujourd'hui, quand même, dans ce cadre de démocratisation du pays, nous arrivons maintenant à avoir une cour constitutionnelle, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est à applaudir.
Joël Kadedanga, autre installation, le même samedi 4 avril, c'est la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH en sigle. La composition de cette Commission nationale de droits de l'homme divise déjà différentes composantes de la société civile en RDC. Il y a des ONG du secteur de droits de l'homme qui qualifient d'arbitraire la désignation de 9 membres de cette commission qui, selon elles, sont plus des politiciens que des défenseurs de droits de l'homme.
Oui, c'est ce qu'on a toujours reproché à notre société civile. Vous savez que notre société civile, elle est hautement politisée, soit du côté de la majorité ou du côté de l'opposition. C'est à ce niveau-là qu'on reproche à ceux qui ont eu l'amabilité d'assurer l'arbitrage dans la désignation de membres, notamment comme aujourd'hui c'est le camp au pouvoir, c'est lui qui devait assurer cet arbitrage suivant les textes légaux, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, et que lorsqu'on sait que quand vous êtes au conseil, à la commission là, et votre vécu quotidien sur le plan pécunier, sur le plan financier va changer, et voilà pourquoi on ne pouvait que recommander ce recommandable par ceux qui ont eu la chance d'arbitrer. Mais écoutez, les choses sont faites telles qu'elles sont. On ne peut qu'assumer. Si les gens étaient honnêtes avec eux-mêmes, on pouvait choisir des hommes qui viennent réellement de cette société civile au lieu de prendre des gens apparentés. C'est ce qui justifie un peu toutes les critiques vis-à-vis de l'installation de ce bureau.
Jean-Pierre KMB, ce point de vue de ces ONG qui qualifient d'arbitraire la désignation de 9 membres de cette commission est justifié?
Moi, je crois que c'est toujours dans les cadres de la vieille politique, d'autres doigts de là que je m'y mette. Il y a toujours des gens qui voudraient être à ces postes. Si eux-mêmes étaient à ces postes, ils ne crieraient pas à tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, remettre en cause la procédure des désignations. Mais il ne faut pas oublier que ces gens ont été désignés par leurs thématiques respectives avant de voir le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, il était dans les devoirs de l'Assemblée nationale et du comité d'accompagnement de faire l'arbitrage. Alors, si on n'est pas tombé sur votre CV, si on n'est pas tombé sur votre nom, vous n'allez pas dire que la procédure était biaisée. Vous n'allez pas dire que la procédure était biaisée, comme j'ai cru entendre dans certains médias certains candidats malheureux saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer ce qu'ils qualifient de l'illégalité dans la désignation et tout ça. Ce qui est fait, le vin est tiré, il faut le boire.
Chamboui Batoubenga, vous intervenez depuis Matadi dans le Bas-Congo. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui?
C'est l'actualité à Matadi. Guéli, l'actualité reste dominée par le ralentissement de l'exécution des travaux de construction du stade de Lumumba. Vous savez que le stade de Lumumba est un stade qui fait couler l'encre et sans livre ici parce que tous les politiciens passent toujours par ce stade. Mais le stade était en construction, est en construction par les Chinois des Zengwei. Mais curieusement, parce que ce sont eux qui avaient gagné le marché, curieusement, le mardi écoulé, ils ont écrit une correspondance adressée aux autorités de la province qu'ils n'ont plus de l'argent. Ils n'ont plus d'argent. Donc, depuis que le gouvernement provincial avait remis publiquement des espèces aux Chinois, 2,5 millions de dollars américains, c'était le 1er février 2014, jusqu'à ce jour, le gouvernement provincial n'a versé aucun rond. Alors, les Chinois, évaluant le travail qui est déjà fait, ils ont trouvé qu'ils ont déjà dépensé 4 millions de dollars, donc soit 1 million et demi de dollars, ce n'est pas le préfinancement, et que le gouvernement provincial ne fait que des promesses. Fatigués des promesses, ils ont écrit, et la situation s'est enflammée dans la ville, la situation inquiète tout le monde, vous savez, avec le stade à Matadi, c'est tout un problème. Les gens attendaient que ce stade soit inauguré le 25 décembre de cette année, conformément à la promesse du gouvernement provincial, mais on se rend compte qu'il y a problème et ça coule. Je sais que c'est facile toutes les lèvres maintenant, Matadi.
Merci, Chamboui Batoubenga. Avant de passer à notre premier thème de ce soir, juste un mot par rapport à la mort de Mgr Moké Jean-Pierre Kayembe.
Oui, Mgr Moké, je crois que c'est quelqu'un qui a marqué la vie de plus d'un Kinois ou d'un fidèle catholique. Un homme pour qui personnellement j'ai beaucoup d'estime et surtout son combat dans l'éducation de la jeunesse. À 99 ans, je crois qu'il était temps pour lui d'aller se reposer à la droite du Père. Et donc je ne peux que lui souhaiter un bon repos.
Joël Kadidanga.
Paix à son âme, il a fait son temps, il a fait son travail au service de son peuple. Il a inscrit son nom dans l'histoire de ce pays, notamment dans le secteur éducatif. Que son âme repose en paix.
Chamboui Batoubenga.
Vraiment que son âme repose en paix. Il reste vivant par les œuvres qu'il a exercées dans le pays. Nous connaissons l'Institut Moké. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Tous ceux vraiment qui sont passés par les bancs de l'école, surtout à Kinshasa, reconnaissent encore la valeur de Monseigneur. Que son âme repose en paix et que la tête de nos ancêtres lui soit douce.
Premier thème de ce soir, affaire fosse commune de Maluku. Le procureur général de la République se saisit du dossier relatif à la fosse commune de Maluku. Il a réuni hier jeudi à son cabinet tous les services de sécurité et du parquet, notamment l'auditeur général des FRDC, le commissaire général de la police, l'administrateur général de l'ANR, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire ainsi que la police scientifique. Au menu de leur rencontre, le parquet a voulu s'enquérir de la situation. Il a confié l'action publique au procureur de la République près le tribunal de paix de Kinkolé pour une enquête déjà en cours sur le site des Maluku. Guilain Mouéou Kaouzi fait le compte-rendu de la réunion au micro de Jeff Ngoy.
Le procureur général de la République a dû diligenter des enquêtes judiciaires. Et à notre niveau, nous avons pu ouvrir un dossier et procéder aux auditions éventuelles, en annonçant le fait que nous avons effectué plus d'une descente, ensemble avec ceux des Nations Unies et d'autres organismes qui sont venus pour enquêter sur les faits. Nous avons aussi demandé aux gens du bureau conjoint des Nations Unies qui ont eu à porter à la connaissance de l'autorité qu'il existerait des victimes, que ces victimes-là viennent. Les victimes qui sont à la recherche d'un de leurs prix hier, les informer qu'il existe un dossier judiciaire, ils peuvent à ce moment-là venir et que nous puissions prendre leur déclaration. Et toute personne qui est intervenue sera appelée à être entendue. Et les enquêtes sont faites dans les normes et le respect strict de la loi, comme le veut la procédure pénale.
Notez que déjà hier jeudi, devant la presse ici à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a reconnu que des enquêtes sont en cours pour élucider la vérité sur ce dossier fosse commune. S'agissant de l'exhumation ou pas des corps, Lambert Minda a affirmé que seuls les enquêteurs peuvent décider de l'exhumation des corps si cela peut conduire à la vérité. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement précise que le site de la fosse commune est sécurisé depuis le début de l'enquête judiciaire initiée par le procureur de la République. Lambert Mendo Malanga, porte-parole du gouvernement, dans ses propos recueillis par Emmanuel Imbanda.
L'enquête est en train de se dérouler. Une enquête ne peut pas être limitée, surtout par un ministre, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le ministre qui mène l'enquête, c'est une enquête judiciaire. C'est le procureur général de la République qui a commis des magistrats au nom de l'unité de l'action judiciaire, lesquels se font entourer des experts qu'ils jugent nécessaires pour prendre tout devoir. Et même l'exhumation est un devoir. Si le magistrat estime qu'on peut exhumer, on peut exhumer. N'allez pas isoler l'exhumation. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, y compris l'exhumation. Donc personne ici ne peut refuser une exhumation si elle peut permettre la manifestation de la vérité. Il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est que les enquêteurs estiment qu'ils en ont besoin. Personne ne donnera des ordres aux enquêteurs parce que nous ne laisserons personne dicter sa loi à notre justice qui est indépendante. Nous-mêmes, nous nous préservons de le faire.
De son côté, l'opposition politique exige du gouvernement une enquête crédible et indépendante pour éclairer l'opinion sur l'existence de cette fosse commune à Maluku. Dans une déclaration politique faite toujours hier jeudi à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, plusieurs partis de l'opposition, notamment l'UNC, la TD, le MLC, le PK, l'UDPS, lancent un ultimatum de 2 semaines au gouvernement pour s'expliquer sur cette affaire de fosse commune. Joël Kadé Danga, éditeur du journal Impact News, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Quelle est votre lecture sur cette affaire de fosse commune de Maluku?
Merci madame, je voudrais y aller par quelques observations. La première observation, c'est que nous avons atteint dans notre pays un niveau de banalisation de la mort le plus exagéré qu'on puisse parler vraiment. J'ai toujours cité Badibanga qui dit « Aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. » Quand on parle de 421 personnes qui ont été enterrées dans un gouffre. Je n'aimerais pas entrer dans les considérations politiciennes. J'aimerais rester vraiment loin de ça. C'est qu'on ne sait pas vraiment respecter nos morts dans notre pays. Et qu'on dise que c'est une pratique routinière, qu'on en ajoute même que depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à 945 personnes qui ont été enterrées dans ces conditions-là. Donc, c'est vous dire que nous n'avons plus du respect pour la mort. Vous savez, le mort, c'est la seule personne qui mérite les hommages de tous dans la vie qu'elle est. Vous verrez un militaire, vous verrez un policier devant un mort, il s'arrête, il rend les hommages. Mais si des dirigeants que nous avons ne savent plus respecter les morts, là, c'est la première observation. La deuxième observation, ces morts telles que présentées, on nous dit qu'il y a eu 300 fœtus ou 300 morts-nés. Nous connaissons la pratique dans notre pays et nous avons déjà eu à assister à des morts-nés dans nos familles. C'est le même jour qu'ils sont enterrés, qu'ils sont remis à leur famille pour être enterrés le même jour. Des fois, il est prévu quelques espaces dans chaque hôpital où il y a des grandes maternités pour ces enterrements ici. Ça vient d'où ? Troisième observation, pourquoi toujours il y a ce déficit communicationnel dans notre pays? Quand est-ce qu'on avait lancé un communiqué pour dire, écoutez, il y a autant de corps à la morgue de l'hôpital général Mama Yemo? Est-ce que quelqu'un a-t-il constaté la disparition dans sa famille pour venir le constater? Et si on pouvait faire, en effet, ces enterrements collectifs-là d'une manière transparente, je crois qu'on aurait dû appeler 2-3 chaînes de radio, de télévision pour venir couvrir l'information. Il ne faudrait pas toujours qu'on attende que la population constate les odeurs nauséabondes, appelle à MONUSCO. Quand on vient constater, alors on peut sortir tous les chevaux pour donner l'information. Pourquoi on ne pouvait pas anticiper, donner cette information-là avant? Mais alors là où je voudrais chuter, c'est pour justement vous dire que ce nombre de 421 morts, dont les indigents, présentent les vrais chiffres du bilan Matata. Ça voudrait dire la croissance économique telle que présentée, la maîtrise du cadre macroéconomique, la maîtrise du taux d'inflation et consorts, peuvent se résumer par le niveau que notre pays a atteint de la misère, où les gens vous meurent comme ça. Et c'est pourquoi même un cimetière est appelé ciel et terre. Entre ciel et terre, c'est certainement là où nos dirigeants de Kinshasa vivent, parce qu'ils ne peuvent plus comprendre la misère des autres. La misère des autres, et on peut banaliser à parler des morts. Et il faut voir avec quelle
Je vous redonne la parole, Joël Kadedanga, Jean-Pierre Kaimbe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTG en sigle. Un média privé qui émet depuis Kinshasa. Votre avis sur cette affaire de fosse commune de Maluku?
Merci madame. D'abord, je suis contre la politisation ou la récupération politicienne que certains acteurs font de cette découverte macabre. Indignation, stupéfaction, exigence de vérité et consort. Oui, j'essaie de comprendre les réactions des uns et des autres, mais il faut être venu du ciel pour ne pas comprendre les réalités dans lesquelles les Kinois vivent. Joël Kadéana a énuméré quelques-unes ici, où vous avez matin, midi, soir, les jeunes filles qui avortent, qui laissent un bébé, qui je ne sais dans un caniveau, qui je ne sais dans une rivière, qui je ne sais derrière quelle maison. Tous ces enfants vont où? Dans cette même ville où...
Bah, c'est que l'on sache, ces morts-nés sont enterrés le même jour. On ne les gardait pas dans les morgues, Jean-Pierre.
Vous regardez la télévision comme moi. Vous regardez notamment Molière TV. Et vous savez qu'au moins, chaque jour qui passe, on vous présente un bébé qui a été abandonné, on ne sait où. On vous présente quelqu'un qui est mort dans un coin, ou, qui n'a pas de famille, qui n'a pas ceci, cela. Tous ces gens, il faut se poser la question. Ils vont où? C'est à la morgue. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une loi.
Et combien de temps à la morgue?
D'accord.
La morgue centrale a la capacité de recevoir combien de corps?
D'au moins 300 personnes. Alors, il ne faut pas oublier que de passer 30 jours, on tombe dans un cas social. Et le gouvernement est dans le devoir d'organiser, par exemple, l'enterrement collectif comme ça a été fait. Moi, je crois que ça ne doit pas surprendre. Les gens disent, mais oui, on sait que pourquoi avoir enterré ça, notamment pour avoir fait ceci, cela. Moi, je crois qu'il faut quand même regarder les faits et ne pas trop s'agiter. Il faut regarder les faits, n'est pas trop s'agiter.
Mais est-ce que les gens n'ont pas le droit de se poser cette question, pourquoi cet enterrement a eu lieu la nuit?
Oui, les gouvernements ont été suffisamment clairs là-dessus. D'abord que c'est une activité routinière, mais aussi on ne pouvait pas enterrer autant de personnes la journée.
Routinière,
on n'a pas communiqué. Mais l'hôpital général,
on
en parle parce qu'il y a eu un groupe de gens qui ont signalé, par exemple, qui ont signalé une ONG qu'on a découvert, on a senti des odeurs et tout ça. C'est pourquoi le gouvernement a essayé de briser les silences et d'éclairer l'opinion par rapport. Parce que moi, je crois que dans cette affaire, le gouvernement n'a fait que ce qui lui revient des droits. Il est dans ses prérogative de s'occuper de ces citoyens qui tombent dans ces cas justement de sociétés, un cas social. Je crois que ça se comprend. On est enterré dans quelles conditions? Mais on vous a dit qu'ils ont été enveloppés dans des linceuls blancs en plastique. C'est clair, des normes dans ces cas ont été respectées. Je vois qu'il n'y a plus de quoi en faire un fromage, même si dans ces pays, on est habitué à des récupérations politiciennes, on est habitué à sauter sous n'importe quelle occasion pour réapparaître encore.
421 personnes enterrées, c'est pas trop?
Oui, c'est trop. Mais il faut vous demander, vous et moi, regardons la télévision chaque jour, reconnaissons dans quelles conditions, dans ce pays, on a des gens qui manquent quoi manger, on a des gens qui ont été abandonnés, on a des gens qui sont malades. D'abord, on a des accidentés, des gens qui ont connu des accidents, qui n'ont pas de pièces d'identité. On les amène où? À la morgue. Et puis, on se rend compte que la morgue, finalement, est pleine. Sa capacité d'accueil n'est que de 300. On va au-delà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder à un enterrement collectif. Comme ça a été fait.
Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télé Atlantique, une télévision émettant à Kinshasa dans la province du Bas-Congo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire de fosse commune?
Vraiment, Kelly, je suis estomaqué par les propos que venait de tenir Jean-Pierre Kayembe. Et c'est comme toute la population du Bas-Congo est scandalisée de voir la manière dont nos frères qui sont à Kinshasa traitent les morts. On prend cette question des morts avec beaucoup plus de légèreté et on se demande si on est maintenant où, Mama Kelly? Enterrer 421 corps, nuitamment, et les gens trouvent ça normal. Et Jean-Pierre Kayembe venait même de dire qu'ils ont été enveloppés dans des sacs. Donc ça me fait mal. C'est dire quoi? On ne peut pas comprendre qu'un gouvernement responsable puisse prendre ses compatriotes, prendre les citoyens de son pays et les enterrer dans une fosse commune en vrac. Dans un pays riche en bois comme la RDC, Kelly, nous qui sommes à Matadi, nous voyons tous les jours ici combien de camions descendent, déposent des bois ici au port qu'on exporte pour que ces gens-là, qui se retrouvent dans les pays où il n'y a pas de bois, qu'ils soient enterrés dignement. Mais ceux-là qui se retrouvent dans le pays où il y a tous les bois sont jetés dans une fosse commune de n'importe quelle manière. Non, ça fait mal. Moi, je pense que ce que les autorités de Kinshasa ont fait, ça montre comment, peut-être vous qui êtes à Kinshasa, vous avez votre façon de voir les choses. Nous, ici à Matadi, nous avons plusieurs fois entendu les communiqués du maire de Matadi. Jean-Marc Nzeido passe souvent les communiqués. Si tel n'a pas vu celui-ci, il y a des personnes qui sont à la morgue, il y a ceci, cela. On passe même une semaine de communiqués. Et après, on va enterrer ces gens. On voit la mairie acheter des cercueils. La mairie de Matadi qui achète des cercueils. Et ces gens sont enterrés au cimetière de Boko, en toute dignité. Vous, à Kinshasa, vous prenez la dignité humaine comme quoi. Ça nous dépasse. Je félicite le procureur de la République, comme le procureur général de la République, qui a commis des magistrats pour l'enquête. C'est une très bonne chose. On va voir ce que l'enquête va nous donner, mais il y a déjà de l'inquiétude et surtout de la négligence qui caractérise le pouvoir de Kinshasa. Vous connaissez l'affaire de Katekelaï au Kasaï oriental. Vous connaissez les massacres des chrétiens. Vous connaissez le phénomène Ibou. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dans les dossiers des adeptes de Bundu Dia Congo, l'affaire Chebeya, aujourd'hui fausse commune, ce sont des signes, les signes qui montrent qu'on va effectivement vers la fin des régimes.
Joël Kadidanga, il y a les membres socialistes du Parlement européen qui demandent une enquête, qu'une enquête indépendante soit diligentée. Lazado aussi estime important que les enquêtes sur la fosse commune de Maluku soient conduites par des personnalités indépendantes pour éviter, je cite, une accréditation pure et simple de la version avancée par le gouvernement congolais.
Parce que dans cette version-là, Kelly, on sent déjà qu'il y a beaucoup de mensonges. Et puis que l'on ne s'imagine pas qu'on restera éternel sur cette terre, qu'on ne va pas mourir. On finira aussi par mourir. Alors, le niveau de banalisation de la mort dans notre pays, il faudrait qu'il y ait une enquête indépendante. L'enquête indépendante pourrait donner un peu du crédit à la thèse du gouvernement. Si tel est le cas, ce sont des fœtus, on trouvera que ce sont des fœtus. Si ce ne sont pas des fœtus, on trouvera que ce ne sont pas des fœtus. Pourquoi ? Vous allez un peu voir comment est-ce que la mort de Tchebeya, par exemple, le cas dont le confrère a cité, Vous allez voir, on vous prend un responsable de famille qui a une femme, qui a des enfants, on vous dit qu'il a été trouvé mort avec des capotes, avec des messes d'une femme. Donc on voudrait le faire passer comme un immoral. On dit femme est mort et on a la conscience tranquille et on reste dans sur son siège. Quelle est la morgue dans cette ville, très chère consoeur, nous sommes journalistes, qui peut contenir plus de 400 personnes qu'on peut enterrer dans une nuit? Donc c'est impossible. C'est autour un peu de tous ces questionnements là qui sont jusqu'à preuve du contraire sans réponse qu'on cherche qu'il y ait une commission d'enquête indépendante qui va soit infirmer ou confirmer les conclusions auxquelles sont arrivés les gouvernements provincial et central de Kinshasa. Voilà ce que je puis dire à ce niveau-là. Deuxième chose que j'aimerais dire, Jean-Pierre, il faut savoir que, comme on dit, notre nez est toujours tourné vers le bas. Donc ça veut dire que demain, après-demain, nous allons tous mourir. Moi, peut-être, en quittant ces studios, je peux mourir aujourd'hui. Alors, le gouvernement, parce que l'indigent n'a pour parent que l'État congolais. Que on prenne ton corps, qu'on a le jeté comme ça, que tes enfants se posent la question sur la sépulture de KMB, elle est où? On ne peut pas, le 1er août, aller rendre les hommages. Tes enfants ne savent pas où est-ce que tu as été enterré pour qu'il ne fût que te rendre les hommages, même après ta mort. Je me demande, on est dans quel monde? On a quel cœur, Kelly? Donc, c'est à ce niveau-là, Kelly, qu'on se pose la question. On aimerait quand même, à partir de ce cas, évitons un peu toute considération politicienne, laissons les politiciens à côté, mais quand même qu'on invite notre gouvernement, ça coûterait quoi? Acheter un cercueil, c'est $200. Ça coûterait quoi à notre gouvernement d'enterrer dignement ces gens? Est-ce que ça coûterait quoi au gouvernement provincial? Pourquoi augmenter les frais funéraires pour enterrer quelqu'un dans les cimetières de Kumputa? Pourquoi faire des cimetières les fonds de commerce? Pourquoi en faire des boutiques ou pour enterrer quelqu'un, il faut 4 000, 5 000 dollars?
Merci Joël Kadedango, vous a compris Jean-Pierre KMB. Vous avez suivi Chambui Batubenga qui a donné l'exemple de Matadi où le maire de la ville, lorsqu'il y a des corps qui traînent à la morgue. Il y a des communiqués qui passent à la radio, à la télé pour demander aux familles de venir récupérer leur corps. Et quand il n'y a pas de famille, on enterre ces gens-là dans des cercueils avec toute dignité. Pourquoi ça n'a pas été fait pour ces 421 personnes?
Merci, je voudrais répondre à Champouy en même temps, Joël, que je respecte la sacralité de la vie. Je respecte la sacralité de la vie et les droits des compatriotes enterrés au cimetière de Foula-Foula ont été respectés dans la mesure où on a pris, on a respecté des normes et on a fait l'essentiel pour que leur dernier séjour sur Terre soit sans problème.
Soit dans un trou.
L'hôtel des villes. La morgue de l'hôpital général a toujours communiqué par rapport à ça. Est-ce que vous savez combien des malades
vous
sont aujourd'hui abandonnés?
Vous avez suivi les communiqués qui sont passés à la télé ou à la radio concernant ces gens qu'on a enterrés le 19 mars dernier?
Mais est-ce que vous savez vous-même combien de malades a-t-on aujourd'hui à l'hôpital général dont les familles ont abandonné? Ils sont nombreux. Et ces gens, quand ils meurent, où doivent-ils aller? L'hôpital général, avec sa capacité d'accueil qui est très très réduite, la communication, elle a toujours été faite. La communication et des communiqués ont toujours été donnés. Mais on sait dans ces pays...
Entre l'hôpital et l'hôtel de ville où on passe à communiquer à la télé ou à la radio pour demander aux familles qui ont leurs membres à l'hôpital de passer récupérer les corps.
Oui, je crois que l'hôpital général a sa façon de communiquer. Sa façon de communiquer... et donc... Il y a des gens qui doivent bien prendre soin de leurs proches. Vous savez, dans ce pays, quand on a un proche et qu'on ne veut plus de lui, on l'abandonne. Et quand on ne s'interroge pas sur ce qu'il est devenu, quelqu'un qu'on amène à l'hôpital et dont on ne sait plus suivre si les soins sont à quel niveau, je crois que c'est déplorable. C'est aussi les lieux ici d'en appeler à la conscience et surtout à l'assistance, parce que vous avez des gens qui ont des familles mais qui se trouvent abandonnés et aujourd'hui enterrés, pris en charge par les gouvernements. Il y a des voix qui s'élèvent pour décrier et dénoncer ce qu'ils prétendent qualifier et assimiler ça aux événements de la mi-janvier, ce qui n'en est pas le cas. Et donc, une invention de toutes pièces, vous voyez.
Merci Jean-Pierre Kayembe Chambouyi. Brièvement, vous allez répondre brièvement. Il y a le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge qui a indiqué mercredi dans un communiqué que cette découverte pose de nombreuses questions auxquelles la population congolaise et la communauté internationale sont en droit d'attendre des réponses.
Mais il a raison. C'est ce que je disais, hein, que tout le monde se pose des questions, même la communauté nationale. Hein. Chez nous, nous dans les Bas-Congo, nous avons le respect des morts. On ne comprend pas. Ça passe comme on se demande si les autorités, les gens qui ont fait cette histoire, si ce sont des humains ou ce sont des monstres. Hein. On ne sait pas comprendre des choses comme ça. Hein. Donc, nécessairement, je souscris à la démarche du vice-premier ministre belge, hein, Reinders, c'est ce qu'il a dit. C'est une très bonne chose, il faut une enquête indépendante pour essayer un peu de voir par rapport à ce que le gouvernement provincial, le gouvernement national a engagé comme enquête. Vous savez, dans ce pays, les enquêtes, Joël l'a dit, hein, les enquêtes, on les fait toujours, mais ils ont leur façon de faire.
Merci.
Mais peut-être cette fois-ci, nous pensons que, comme il y a maintenant aussi la Commission nationale des droits de l'homme, voilà, on leur a donné du travail. Hein, ils se sont tiraillés par-ci, par-là, ils sont là, il y a du travail, qu'ils fassent le travail, et qu'ils nous donnent le résultat.
Merci Chambouy Batoubenga. Deuxième terme et dernier terme de ce soir, au terme de son congrès organisé à Lubumbashi, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une affaire concile, a décidé de présenter des candidats aux élections provinciales, sénatoriales, législatives et à la présidentielle. Gabriel Kyungu, le président de ce parti de la majorité, l'a déclaré ce week-end. En ce qui concerne le cycle électoral, Gabriel Kyungu estime qu'il faut organiser en priorité les élections provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles. On l'écoute au micro de Colin Djuma Moussoumpo.
L'UNAFEC d'emblée est pour les grandes élections, en priorité, c'est-à-dire les provinciales, les sénatoriales, les législatives et les présidentielles. L'UNAFEC n'est pas contre les élections locales, mais cela n'est pas une priorité pour le moment, parce que nous devons nous conformer au calendrier tel que prévu par la Constitution. En ce qui concerne les ambitions électorales, l'UNAFEC a décidé d'avoir des candidats au provincial, au sénatorial, au législatif ainsi qu'au présidentiel. L'UNAFEC, tout en affirmant son appartenance à la majorité présidentielle, va au sein de cette majorité se choisir un candidat qui répond à son profil.
Qui peut être aussi le président Kyungu Kumanza.
Mais pourquoi pas, je suis, tant que je suis membre de la majorité, où est le problème?
C'était là Gabriel Kumwa-Kumwanza, président de l'UNAFEC, Jean-Pierre Kaimbe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, un média privé qui est né depuis Kinshasa. Je vais vous demander d'être bref parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Comment vous analysez cette déclaration de Kumwa-Kumwanza qui est président de l'UNAFEC? L'UNAFEC, un parti politique de la majorité présidentielle qui décide de présenter son candidat pour l'élection présidentielle de 2016.
Je crois que ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas d'autant plus que à la veille de tous les grands enjeux, hein, à la, de, notamment les joutes électorales, chaque parti est toujours derrière une politique de positionnement. L'UNAFEC est en train de jouer à ce que les partis se positionnent, et comme ça, quand on sera autour de la table et que les partis trouvent, gagnent un gros morceau. Dans tous les cas, je crois que c'est l'expression de la démocratie. Quand, par exemple, le président Kung, pour qui j'ai beaucoup de respect, parle des élections locales, provinciales, estimant que les élections locales ne sont pas importantes, que la présidentielle est plus prioritaire, mais je crois que je suis désolé. Ça, c'est sa lecture. La Commission électorale nationale indépendante estime qu'il est à mesure d'organiser des élections locales et respecter également la présidentielle l'année prochaine. Donc, respecter les délais. Je crois que là, il n'y a pas de quoi, encore une fois, faire un fromage. Il est normal que chaque parti affiche ses ambitions. C'est ça l'expression de la démocratie. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. On l'a vu avec M. Père en fait privé, on l'a vu avec l'UDPS. On sait qu'à la veille de chaque des élections, on a toujours tendance à se positionner, se repositionner, tout comme il y a des alliances qui se font et se défendent, se délient et se lient. Donc, ça ne me surprend pas.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact, nous, un journal qui paraît ici à Kinshasa, Kumwa-Kumwanza a dit, rester membre de la majorité présidentielle, mais ce qui est surprenant quand même, ce parti politique depuis un certain temps a toujours des points de vue différents de celui de ceux de la majorité présidentielle. Pourquoi selon vous? Comment on peut expliquer cela?
Non, il n'y a pas de point de vue divergent avec ceux de la majorité présidentielle, madame. Le problème ici, il faut souligner les choses. Moi, c'est une démarche normale, une attitude normale pour un parti politique qui est défini comme un ensemble d'individus réunis autour des idéaux pour la conquête et l'exercice du pouvoir le plus longtemps possible. En principe, chaque parti politique, membre de la majorité de l'opposition, devrait avoir l'attitude de l'UNAFEC qui, à la veille des élections, devrait organiser les élections primaires. D'abord, chacun dans son parti politique, avant de venir dans les regroupements politiques. Mais cela pèche contre la vision, par exemple, de Minaku, qui veut qu'on impose un dauphin. Or, l'imposition d'un dauphin, qu'on impose Minaku, qu'on impose Matata Moïse, ou qui, ça c'est antidémocratique. On veut nous ramener dans l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, où Vladimir Poutine peut présenter Medvedev comme son candidat président et après revenir. Ça c'est demander à Joseph Kabila d'être dictateur. Moi, je crois que l'attitude de l'UNAFEC, c'est une attitude responsable.
Est-ce que ce n'est pas monter les enchères de la part?
Non,
de...
ce n'est pas monter les enchères. C'est ça la pratique normale de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? Elle vient de la base. En principe, tout parti politique, aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, vous apprenez, c'est une année préélectorale, vous apprenez qu'il y a des primaires. En France, vous apprenez que l'année, à la fin de cette année ou l'année prochaine, il y aura des primaires au niveau de l'UMP, il y aura des primaires au niveau du Parti Socialiste. Et donc, c'est de cette façon-là que nous devrions vivre la démocratie. On ne peut pas attendre que Joseph Kabila, aujourd'hui, qui ne veut pas être dictateur, vienne imposer Minaku pour être candidat de la majorité présidentielle. Ça, c'est péché contre la démocratie, je crois. Par rapport à ça, je soutiens le chef de l'État qui ne veut pas désigner un dauphin, et je soutiens la position de l'UNAFEC qui est une position démocratiquement acceptable dans les normes.
Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur du programme à la radio-télévision Atlantique, vous intervenez depuis Matadi dans la province du Bas-Congo. On a quand même l'impression qu'il y a un certain malaise au sein de la majorité présidentielle.
Kelly, il n'y a pas de malaise au sein de la majorité présidentielle. Du moins, il est connu de tous que tout parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir, l'exercer et au besoin de les conserver. Mais pour les cas d'espèce de l'UNAFEC, je vous dis qu'il s'agit du théâtre de chez nous. C'est pour distraire l'opinion publique et prendre l'opposition dans un piège. N'oubliez pas que nous sommes à la veille des élections. Il s'agit d'une stratégie électorale. En 2011, il y a eu ce que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui a appelé mosaïque PPRD, où il y a eu beaucoup de partitions PPRD, des partis que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. Il faut une nouvelle stratégie. La majorité présidentielle, il n'y a pas de malaise. C'est leur façon de faire pour distraire l'opinion publique. Mais eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous me parlez d'ailleurs, vous dites, l'INAFEC, comme il dit là-bas, l'INAFEC sera, va présenter un candidat président de la République, par exemple. Est-ce que l'INAFEC, le vice-premier ministre, je l'avais dit la semaine passée au cours de cette émission, que le vice-premier ministre, déposant la liste des partis politiques à la CENI, il a dit qu'il n'y a que trois partis politiques dans ce pays. Et vous connaissez la case, la Commission africaine, la case a dit qu'il y a quatre partis. Est-ce que l'INAFEC, moi j'ai déjà vu ici dans les Bas-Congo où je suis, je n'ai jamais vu un parti, quelque part, un bureau où quelqu'un me dit que je suis de l'INAFEC. Mais toute une province où il n'y a personne de l'INAFEC, enfin du moins à ma connaissance, mais qui vous dit que je vais vous présenter un candidat président de la République. Non. Ça c'est la diversion. Ce sont des choses qu'on est en train de faire. Nous les voyons.
Merci.
Kelly.
Merci.
Tous les partis politiques là, vraiment ces derniers temps, si vous êtes en Matadi, les bureaux des partis politiques sont en train de se créer partout. On est en train de peindre partout. Toutes les maisons, toutes les boutiques qu'on voyait par-ci, par-là, on est en train de mettre un coup de peinture. C'est tel bureau. Alors que ce sont des partis qui n'existent même pas.
Merci,
moi,
Chamboui.
L'INAFEC, la stratégie pour distraire l'opinion.
Alors vous allez conclure aussi, allez-y.
Ok. Pour conclure, j'ai compris avec la mort dans mon âme par rapport à ce qui s'est fait à Kinshasa. Ce qui s'est fait à Kinshasa, où on est en train de banaliser la personne humaine. En tout cas, il faut respecter la personne humaine. Il faut faire comme nous dans les Bas-Congo. Il faut respecter les morts.
Merci, Chamboui Batoubenga, Jean-Pierre Kayembe. Vous allez aussi devoir conclure. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'on va vers l'éclatement de la majorité parce qu'il y a des partis qui se sentent frustrés au sein de cette plateforme politique.
Il devrait commencer d'abord par rendre les tabliers parce que leurs responsables occupent des postes de responsabilité dans les cadres de la majorité présidentielle en tant que membres. Et donc, l'affronte qu'on observe, c'est vrai que ce week-end, ils pourront encore se retrouver à Kindakati pour planifier les divergences. C'est normal que dans une famille qu'il y ait des dissensions et que qu'on finisse par laver les linges sales. Et ça ne me surprend pas. Mais il est vrai que tous ces gens voudraient pousser Joseph Kabila à se prononcer, je ne sais autour de quoi. Lui qui a toujours respecté ou exprimé sa volonté de respecter la Constitution. Ils veulent qu'il leur dise qui pourra le remplacer et tout ça. Donc je crois que ce débat n'a pas encore sa place, d'autant plus que le chef de l'État a encore plus d'une année devant lui. Pourquoi le presser? Donc je crois que ça n'a pas de sens et l'UNAFEC a d'abord intérêt, son président a d'abord intérêt à se battre, se faire d'abord élire aux prochaines élections.
Joël Kadedanga, une diversion de la part de Kumba Kumanza?
Pas du tout, madame. Moi je ne sais pas qu'est-ce que l'on veut. On veut une chose et son contraire, c'est la démocratie. La démocratie vient des partis politiques. Alors en tant que parti politique, un parti politique qui ne présente pas un candidat à la présidentielle, je crois que c'est un parti déjà d'ores et déjà connu comme alimentaire. Et à ce titre-là, j'ai cherché le numéro de Kumba Kumanza pour l'appeler, le féliciter. Je crois que tous les autres partis politiques devront le suivre. Suivre ce que Minak, par exemple, a dit la dernière fois qu'on doit respecter le serment de la majorité présidentielle, c'est pécher contre la démocratie. Le chef de l'État ne peut pas présenter un candidat que tous les partis politiques. Et je rappelle à mon ami Chamboui que nous connaissons la géographie politique de notre pays. Aucun parti politique sur l'étendue de notre pays ne peut pas être partout. Mais l'UNAFEC a un fief qu'il faut respecter. Et que tous les autres partis politiques organisent les élections au sein de leur parti.
Vous l'avez déjà
avant
dit. Merci Joël Kadedanga. Merci cher confrère d'avoir accepté cette invitation. Merci également à Guy Mathieu qui était à la réalisation. La prise de son était assurée par Dieudonné Nyangasa au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon week-end chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.